Toucher Terre, Émilie Glory, sur Radio Grand Ciel.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Toucher Terre. Nous voici au cœur de l'été, étrange atmosphère du mois d'août. La nature est soudain bien calme après des semaines d'agitation. La carotte sauvage se sent un peu seule au bord des chemins. Les chants d'oiseaux se font rares, le coucou et le loriot sont déjà repartis. Heureusement, la chorale des insectes, elle, ne s'est pas encore tue, mais son rythme répétitif, lancinant, nous plonge dans une torpeur accentuée par une chaleur chaque année plus écrasante. Les végétaux restent sur leur soif, les réserves, une fois de plus, sont à sec. Mois d'août, le bien nommé, celui qui nous rappelle le plus souvent notre vulnérabilité face aux changements climatiques qui s'accélèrent. Les arbres, pour certains, ont déjà des couleurs rousses automnales. Les risques d'incendie s'amplifient chez nos voisins du Loiret, pourtant très loin du Mistral et de ses caprices. Il faudra trouver des solutions ensemble. Toucher Terre est fier, une fois de plus, de mettre en avant des hommes et des femmes qui s'évertuent à les imaginer, à les mettre en œuvre pour préserver les espaces naturels de notre département et les nombreuses espèces qu'ils abritent, dont, ça ne vous aura pas échappé, la nôtre. Au sommaire de cette émission, chauffe qui peut. Non, ça n'est pas un appel à quitter le navire climatique, mais la sortie nature organisée par le Conservatoire d'espaces naturels dans notre département à l'occasion de la 24e Nuit internationale de la chauve-souris. Sylvain Garbard, garde animateur, et David Lamotte, président de l'association naturelle de Luisan, nous diront tout de cet événement désormais incontournable de l'été. Nous suivrons ensuite le Conservatoire sur le terrain, toujours en compagnie de Sylvain, décidément sur tous les fronts, pour un reportage réalisé en juin dernier à Dreux. Les chèvres angora de la Bouquetière ont effectué une courte transhumance jusqu'au pont Odé, espace naturel bien connu des Drouets du Nord, qu'elles vont contribuer à préserver. Rencontre notamment avec Romain Cassaigne, leur éleveur adoré. Nous terminerons cette émission avec un petit agenda des sorties nature à venir. Mais tout de suite, revenons à nos moutons. L'eau est un élément indispensable à la vie. Pas étonnant qu'elle soit dans toutes les mythologies et spiritualités du monde, un symbole puissant de purification, de régénération. Pas étonnant non plus que la pénurie à laquelle nos régions doivent de plus en plus souvent faire face soit devenue une véritable angoisse pour les particuliers, comme pour les collectivités. Face aux interrogations de ces dernières devant les défis climatiques à venir, l'association Eure-et-Loire Nature a lancé l'opération Objectif Climat 2030. Il s'agit d'un plan d'accompagnement des collectivités sur 2 ans pour préserver leurs ressources en eau. Je vous propose de réentendre à ce sujet l'entretien réalisé en décembre dernier avec Amélie Roux, chargée de mission biodiversité et environnement pour l'association Eure-et-Loire Nature. Amélie Roux, bonjour. Objectif Climat 2030, c'est le nom de l'opération que vous venez nous présenter aujourd'hui. Alors, ce qui frappe d'emblée, c'est peut-être cette date 2030. À quoi est-ce qu'elle correspond ?
Alors, du coup, elle correspond un peu aux enjeux qui sont ressortis des différentes études d'experts. En fait, 2030, si on n'agit pas en fait concrètement d'ici là, on ne pourra pas revenir en arrière et le 2 degrés qui est le maximum pour éviter les impacts importants du changement climatique, et en fait, on les atteindra pas, on dépassera allègrement ce chiffre. Du coup, il faut, on a 10 ans pour agir.
Et c'est pas beaucoup.
C'est pas beaucoup.
Votre association et à travers elle le réseau France Nature Environnement de la région Centre-Val de Loire s'investit dans la lutte contre les effets de ce changement climatique. Avec cette opération, vous avez choisi de vous attaquer, si j'ose dire, à un problème en particulier, celui des ressources en eau. Alors Amélie, j'ai envie de vous demander, même si nous avons toutes et tous une petite idée là-dessus, quel est le problème avec l'eau ?
Avec l'eau, on risque en fait de manquer d'eau. Et ça va être donc le gros problème dans le futur, c'est que les quantités de pluie ne vont pas forcément changer, donc elles vont être à peu près constantes, voire légèrement augmentées dans notre région, mais elles vont être réparties au cours de l'année de façon différente. Donc on aura de fortes variations saisonnières. Donc en fait, on va alterner avec des épisodes assez longs de sécheresse, plusieurs mois, comme on a pu connaître cet été.
Voilà, c'est un scénario qui semble bien familier.
Voilà. Et par contre, à l'inverse, on aura des épisodes de pluie très, très importants, très forts, sur de courtes périodes. Donc la disponibilité en eau sera plus la même que maintenant, et qu'on constate déjà maintenant qu'on manque d'eau à certaines périodes de l'année. Et donc l'idée, c'est essayer de voir comment on peut la préserver pour en avoir à disposition tout au long de l'année.
Justement, je disais, ça a l'air tristement familier, mais c'est vrai que cette année 2019, elle est vraiment du coup symbolique de ce que vous nous expliquez.
Bah oui, du coup, on constate d'ores et déjà les effets du changement climatique. On voit à travers donc ces épisodes qui sont répètes d'année en année, qui comme les épisodes de canicule. Qu'il est temps, il est urgent d'agir en fait.
Alors qu'est-ce qui est impacté par ce risque de manque d'eau ?
Les habitants en premier lieu, ce manque d'eau, ça risque d'engendrer des problèmes de disponibilité. C'est aussi des problèmes de qualité du coup d'eau. Donc tout ça, sera des conséquences au quotidien et des conséquences aussi dans la mise à disposition d'eau potable. Donc ça va être des coûts plus importants pour traiter et distribuer l'eau. Donc voilà, il faut faire attention. Après évidemment, il y a les agriculteurs qui sont impactés et qui le seront de plus en plus.
C'est l'affaire de tous.
C'est l'affaire de tous.
L'opération Objectif Climat 2030, elle propose un accompagnement des collectivités. Pourquoi est-ce que ces collectivités, elles ont besoin d'être accompagnées ?
Elles ont conscience des enjeux, mais elles savent pas comment, par où commencer, comment s'y prendre, comment faire tout simplement. Et du coup, on est là pour les aider. On les accompagne de façon concertée, donc on essaye de faire ça avec eux, on fait pas ça, voilà, on leur impose rien.
Mais vous avez quand même cette impression, ça concerne, j'imagine, toutes les communes, qu'il y a peut-être une préparation insuffisante par rapport aux défis du changement climatique.
Oui, ils voient les épisodes extrêmes, les épisodes climatiques extrêmes, mais sur des courtes périodes. Les épisodes de canicule, c'est une semaine, deux semaines maximum. Les orages avec de fortes précipitations, c'est 3-4 jours. Et en fait, ils voient les conséquences en subissant ces événements climatiques extrêmes. Mais c'est vrai que derrière, c'est plus difficile de se rendre compte que c'est un changement global sur toute une année, long terme.
On apporte des réponses ponctuelles, mais on oublie de voir peut-être
L'idée, c'est d'essayer de faire face à tout ça et sur du long terme. Et donc nous, on essaye de leur apporter des solutions pour qu'ils puissent
justement agir. Quelles sont les grandes étapes de cet accompagnement ?
Il y a trois grandes étapes. La première étape, donc, on va réaliser un état des lieux de la vulnérabilité du territoire sur la commune. Donc, cet état des lieux va permettre de mettre en évidence les enjeux sur le territoire, mais aussi de mobiliser la population, parce que ça se veut, toute l'opération se veut concertée avec l'ensemble de la population. Donc avec les élus, mais aussi avec les habitants, les acteurs économiques, les acteurs sociaux du territoire. Voilà. Donc l'idée, c'est de mobiliser et d'identifier les enjeux à la fois. Cet état des lieux se base sur une compilation de données existantes, sur des entretiens avec les différents acteurs du territoire et des réunions publiques.
D'accord, oui, donc vraiment tout le monde est mis à contribution.
Tout le monde est mis à contribution. Et donc à la suite, sur la base de cet état des lieux, on va construire pareil, de façon concertée, un plan d'action donc avec la commune. Et l'idée, c'est donc d'identifier des actions qui permettent de limiter les effets du changement climatique sur le territoire.
Est-ce que vous avez pour nous quelques exemples d'actions?
Oui, donc elles vont être essentiellement centrées sur, donc, comme on est en lien avec la ressource en eau, sur la désimperméabilisation des sols et sur les économies d'eau.
Alors là, il faut nous aider un peu.
Voilà, désimperméabilisation du sol, donc ça sera là plus les élus et donc la commune qui pourra agir. Donc c'est en lien avec l'aménagement du territoire. Donc c'est prévoir dans de futurs projets d'aménagement des dispositifs de gestion des eaux de pluie sur le principe de la végétalisation. On va privilégier ce qu'on appelle des noues, donc des fossés enherbés, pour permettre de collecter et d'infiltrer plus rapidement l'eau de pluie. Ça va être des bassins de rétention végétalisés, ça va être des mares, voilà, des éléments comme ça. Donc ça, c'est plus des actions sur l'aménagement du territoire, donc c'est plus les élus qui ont la main là-dessus. Après, les économies d'eau, ça, c'est pour tous. Donc ça va être des petits gestes à faire au quotidien, comme l'installation de mousseurs sur les robinets, comme mettre des bacs de récupération d'eau de pluie. Voilà.
Alors, une partie de votre action, vous venez de le dire, concerne le grand public. Quels sont les messages qu'il est important de faire passer aujourd'hui? Parce que les gens ont peut-être l'impression de déjà faire assez attention. Est-ce que c'est bien toujours le cas?
Ils font beaucoup de choses. Lors de la première réunion publique que j'ai eu l'occasion d'organiser à Illiers-Combray, une des deux premières communes du territoire, j'ai pu me rendre compte à travers d'ateliers participatifs que les gens ont conscience et font des choses. Parce que c'est des actions qui touchent aussi le porte-monnaie, donc ils sont assez sensibles à ça.
Incitatifs, ouais.
Et font les choses basiques. L'idée, c'est d'aller plus loin et d'essayer de voir avec eux qu'est-ce qu'ils pourraient mettre en place pour justement davantage préserver et réduire leur consommation.
Sachant qu'il y a plein de solutions, finalement,
bien
qu'on
sûr,
ne connaît
oui.
pas.
Bien sûr, on est là pour leur proposer d'autres solutions qu'ils ne connaissent pas. Donc, en général, les mousseurs, c'est bien connu. Les bacs de récupération de pluie, c'est bien connu. Mais du coup, nous, on va plus loin dans les démarches.
Les citoyens, justement, est-ce qu'ils peuvent interpeller leur collectivité, leur mairie, pour l'inciter à participer à cette opération?
Bien sûr, bien sûr. Au contraire, faut pas qu'ils hésitent.
Ils peuvent s'en emparer, voilà.
Voilà, ils peuvent s'emparer du sujet. On voit déjà que certains s'en emparent avec les marges du climat, les choses comme ça. Donc voilà, s'ils ont envie d'aller dans du concret et mettre en œuvre des véritables choses sur leur territoire, sur leur lieu de vie, faut pas qu'ils hésitent à interpeller leur commune, à convaincre leurs élus pour s'engager dans cette opération. Nous, on les attend.
Alors, l'appel est lancé. Moi, je pense aux communes, peut-être qu'il y a des maires qui nous écoutent. Quels sont les avantages pour la commune?
Donc, pour la commune, du coup, c'est un accompagnement global. Donc, sur cette thématique changement climatique et préservation de la ressource en eau. Donc, on leur fait prendre conscience et on leur apporte des solutions pour essayer de faire face à tout ça. Donc, à terme, c'est des économies pour la commune, des solutions pour anticiper les effets du changement climatique. Et donc, c'est une meilleure résilience de la population face à ces effets. Donc, voilà.
Donc, on ne peut qu'inciter les communes d'Eure-et-Loire à vous contacter. Justement, elles vous contactent, vous
Oui. Après, il y a toutes les coordonnées sur notre site internet. Il y a mes coordonnées. Donc, après, ils peuvent m'envoyer directement un mail.
Merci. L'appel, encore une fois, est lancé. Justement, pour revenir à vous, Amélie Roux, pour terminer cet entretien, je le disais, vous êtes chargée de mission biodiversité et environnement. Est-ce que vous pourriez, je pense aussi toujours à nos jeunes auditeurs qui nous écoutent et qui peut-être se voient dans des métiers liés à l'environnement, qu'est-ce qui se cache derrière cette fonction?
Alors, c'est assez vaste, du coup. Donc, je suis amenée, sur le volet biodiversité, à réaliser des diagnostics écologiques. Ces diagnostics, ça consiste à faire des inventaires, donc faune, flore, sur le terrain, et après analyser ces données et à faire des préconisations de gestion. Voilà, c'est assez varié sur différents types de milieux, des prairies, des zones humides. C'est très vaste.
Et qui implique beaucoup de connaissances de votre part.
Voilà, du coup, moi, je suis plus spécialiste en botanique, en odonatologie, donc les libellules, et en papillons de jour. Et donc après, on fait des inventaires de biodiversité communale, donc les IBC. Mmh. Et donc pareil, c'est des inventaires non exhaustifs sur l'ensemble d'une commune, où après, on donne des pistes d'action pour les habitants et pour les élus, pour préserver la biodiversité sur leur territoire. Et donc après, bah, il y a l'opération Objectif Climat 2030, donc là, qui est plus donc, sur la sensibilisation au changement climatique et la préservation de la ressource.
Ouais, c'est le volet environnement de votre mission. Merci beaucoup, Amélie Roux. On rappelle cette opération Objectif Climat 2030. Et donc, on renouvelle cet appel aux citoyens d'Eure-et-Loire et aux communes donc, pour contacter l'association Eure-et-Loire Nature et participer à cette opération.
Voilà.
Merci à vous.
Merci.
Un grand merci à Amélie Roux. N'hésitez pas, citoyennes, citoyens, à mobiliser vos communes et collectivités et à solliciter l'association Eure-et-Loire Nature. Vous trouverez tous les détails sur la page internet de l'émission. Avant de retrouver Sylvain Garbard pour l'antenne eurélienne du Conservatoire d'espaces naturels, je vous propose une pause musicale. Il y a quelques semaines, dans nos studios de Rouen, Marie-France Guimard Roche recevait le pianiste de jazz Jean-Charles Acquaviva. L'eau vive. Voilà qui me semblait tout indiqué pour accompagner nos réflexions climatiques. Voici donc un extrait de l'album Weather Groove de l'Acquaviva Trio, ou Cielu, ce qui signifie le ciel en Corse. Petit clin d'œil aux origines du jazzman. De l'eau, encore de l'eau, toujours de l'eau. Thank you. C'était Uccello, un extrait de l'album Weather Groove du trio Acquaviva, composé du pianiste Drouet Jean-Charles Acquaviva, du batteur Antonin Violo et du contrebassiste Bertrand Berruard, un album disponible chez Alba Jazz Diffusion. C'est avec nos amis et partenaires du Conservatoire d'Espaces Naturels que nous allons passer le reste de cette émission. Mais l'association Eure-et-Loire Nature joue un grand rôle dans la protection et le recensement des petits mammifères dont il va être question à présent. Les chauves-souris ont droit chaque année, depuis 24 ans, à une nuit internationale au cours de laquelle elles sont mises à l'honneur. En cette année covidienne qui a stigmatisé ces fascinantes créatures, il est plus que jamais urgent de les découvrir et de les faire découvrir. Le Conservatoire d'Espaces Naturels vous attend donc à la Tourbière des Frous, à Manou, fief de notre ami Lloyd Paillard, conservateur bénévole que vous avez déjà pu entendre à ce micro. Samedi 29 août, à partir de 20h, vous êtes invité au bal des petites reines de la nuit. Retrouvons à distance Sylvain Garbard, garde-animateur, qui a eu la très bonne idée de convier à distance également David Lamotte, président de l'association Naturelle de Luisan, qui a co-organisé la nuit de la chauve-souris en 2019 et qui est donc bien placé pour nous en parler. Sylvain Garbard, bonjour.
Bonjour.
C'est un plaisir de vous retrouver au cœur de cette saison estivale 2020, bien chargée pour le conservatoire, et on s'en réjouit. Des animations nature sont proposées très régulièrement au cours de l'été. C'est une saison propice aux sorties nature ?
Alors oui, c'est une saison qui est très propice pour les sorties nature, déjà parce que les jours sont plus longs, et puis on peut profiter aussi de la fraîcheur du crépuscule. C'est un petit peu moins propice à l'observation de la flore, donc là c'est des sorties qui sont principalement axées sur la faune ou la découverte de milieux naturels.
Alors j'aurai l'occasion tout à l'heure de rappeler à nos auditeurs les prochaines animations, mais vous êtes venu nous parler aujourd'hui plus particulièrement d'un rendez-vous désormais incontournable. Il s'agit de la Nuit internationale de la chauve-souris. Pour 2020, c'est la 24e édition. Elle aura lieu les 29 et 30 août prochains et ce sera l'occasion de redresser quelques torts. On verra ça tout à l'heure. Pour nous en parler avec nous également, David Lamotte, bonjour à vous.
Bonjour.
Vous êtes le président de l'association Naturelle basée à Luisan, association très active dont nous aurons l'occasion de reparler et qui était partenaire du conservatoire l'année dernière pour la nuit de la chauve-souris. Alors avant de nous intéresser à l'animation associée à cet événement cette année, peut-être pourriez-vous, Sylvain, nous rappeler les principales caractéristiques des chauves-souris.
Alors les chauves-souris, comme son nom ne l'indique pas, ce ne sont pas des rongeurs, mais ils font partie d'une grande famille qu'on appelle scientifiquement les chiroptères. Ce sont des mammifères et plus particulièrement des mammifères qui ont la capacité de voler. Et ce sont les seuls mammifères qui ont cette capacité-là. Souvent, on évoque par exemple les écureuils volants. Alors en fait, ils volent pas réellement, ils sont plutôt des écureuils planants. Mmh. La chauve-souris, c'est vraiment le seul mammifère qui existe qui a la capacité de voler grâce à une main ailée. C'est pas des vraies ailes, c'est finalement ses bras qu'elle a adaptés à la capacité de vol.
On parle aussi souvent de la façon de chasser des chauves-souris. C'est souvent ce que les gens connaissent.
Oui, alors ça c'est pour les petites chauves-souris européennes, donc qui chassent grâce à des ultrasons, ce qu'on appelle l'écholocation. Mm-hmm. Ce qu'il faut savoir, c'est que les chauves-souris ont pu coloniser l'intégralité de la planète, du moins quasiment, et aussi le régime alimentaire en fonction, au final, de ce qu'elles trouvent. Donc par exemple, sous les tropiques, ça va être des grandes chauves-souris qui vont être frugivores, donc qui mangent des fruits. Mais nous, en Europe et particulièrement en France, ce sont des petites chauves-souris qui sont toutes, quant à elles, insectivores.
Alors, combien d'espèces sont présentes dans notre département ?
Alors, d'après les données d'Eure-et-Loire Nature de 2018, en Eure-et-Loire, on compte 20 espèces différentes de chiroptères, dont 2000 individus qui ont été comptabilisés en hiver. Alors, 2000 individus, ça ne veut pas dire qu'il y a 2000 chauves-souris en Eure-et-Loire, c'est bien les individus qui ont été comptés lors des hivernages par Eure-et-Loire Nature, donc dans les cavités que l'on connaît.
Alors plusieurs sites du conservatoire sont visités par des chauves-souris, mais est-ce qu'ils abritent peut-être pour certains des colonies ?
Alors, il y a plusieurs sites effectivement qui accueillent des chauves-souris. Alors, sur l'ensemble de la région Centre-Val de Loire, il y a 10 sites préservés par le conservatoire qui sont des gîtes à chauves-souris. En Eure-et-Loire, on en a un qui est situé sur le site de la réserve naturelle régionale de la vallée d'Écailles. Et on a également un grand gîte sur l'espace naturel sensible de la Ferté-Vidame, où le conservatoire donne des conseils à la gestion, notamment autour des ruines de l'ancien château, qui est d'ailleurs un site d'ampleur régionale pour l'hivernage de colonies de murins à oreilles, de murins à moustaches, pardon.
Mais les autres sites du conservatoire sont visités aussi par les chauves-souris.
Alors, par exemple, en Eure-et-Loire, on a 4 sites où ce sont des terrains de chasse avérés, parce que les chauves-souris vont pas nécessairement chasser là où elles gîtent. Donc là, en Eure-et-Loire, il y en a 4 où on a pu observer des chauves-souris en train de capturer des insectes. Donc, par exemple, à la vallée d'Écailles, toujours du côté de Boncourt, à la tourbière des Frous de Manou, où d'ailleurs l'Office national des forêts a réalisé l'année dernière une étude spécifiquement sur les chauves-souris. On a pu également avérer la présence de chauves-souris en chasse lors des nuits de la chauve-souris sur les côtes de Boncourt à Oullins, mais également à la côte de Montreuil. Donc, les sites conservatoires sont aussi des supports enfin, sont des terrains de chasse pour les chauves-souris.
Alors, quel est le rôle joué par les chauves-souris dans l'équilibre des milieux naturels?
Alors, les chauves-souris, comme j'ai évoqué en France, sont toutes insectivores. Donc, elles ont un grand rôle, on va dire, dans la régulation des insectes. Et, par exemple, les moustiques, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en une nuit, les chauves-souris doivent manger un tiers de leur propre poids. Une chauve-souris peut facilement capturer 600 moustiques à l'heure. Donc, ça donne une petite idée du rôle d'insecticide que peuvent avoir les chauves-souris. Ça a aussi malheureusement une conséquence par rapport à leurs effectifs. Comme on le sait, toutes les chauves-souris sont en voie de disparition. Il y a même là très récemment une étude qui vient de tomber et qui montre effectivement le déclin des chauves-souris en France. Comme je l'évoquais, comme elles sont insectivores, eh bien les insecticides, justement, sont également une cause de la disparition de ces espèces, puisque lorsqu'une chauve-souris va consommer un insecte qui va être contaminé par un insecticide, plus un autre, là on voit 600 moustiques à l'heure, s'ils sont tous recouverts d'insecticides, ce qu'on appelle la bioaccumulation, et finalement, la chauve-souris meurt empoisonnée.
Alors, nous avons beaucoup parlé des chiroptères cette saison dans Touche et Terre avec nos amis de l'association Eure-et-Loire Nature, avec également l'association bretonne Amis Chiro qui a ouvert le premier écomusée entièrement consacré aux chauves-souris. Ce qu'il ressort de ces entretiens, c'est que les préjugés ont la vie dure et que finalement la plupart des gens connaissent assez mal ces petits mammifères, voire les trouvent assez repoussants. David Lamotte, votre association est engagée dans la préservation de ces animaux et notamment à travers la pédagogie. Est-ce que vous confirmez que c'est un aspect essentiel en ce qui concerne les chauves-souris, qu'il faut lutter, c'est vrai, contre certaines réticences?
Ah, tout à fait, oui. Justement, la semaine dernière, avec le conservatoire, on a pu tester ça, c'est-à-dire qu'on faisait une sortie sur les insectes, et Dieu sait que les réticences vis-à-vis des insectes sont importantes. Souvent, ce qu'on retient, c'est que ça gratte, ça pique. Et du coup, c'est difficile, hein, de faire aimer des espèces comme les insectes ou comme les chauves-souris quand on a cette considération. Moi, j'essaie toujours, en tout cas avec les enfants et puis avec les adultes, d'essayer de faire aimer ces espèces. Et faire aimer ces espèces, c'est pouvoir après les protéger, puisque je ne vois pas comment on peut protéger une espèce en ne la considérant pas, tout simplement. Donc les chauves-souris, effectivement, il y a plein de fake news sur les chauves-souris et puis d'a priori sur cette espèce.
Alors nous allons jeter avec vous un petit coup d'œil dans le rétroviseur, comme on dit, et faire un bilan de l'édition de 2019 pour mieux appréhender ce qui nous attend à la fin du mois. Comment et où s'est déroulée cette soirée l'année dernière, donc la nuit de la chauve-souris? Et surtout, comment va-t-on à la rencontre des très discrètes chauves-souris?
Alors du coup, c'était la dernière, au mois d'août, c'était la 23e nuit. Donc on a eu un vif succès, hein. On s'était limité à 50 et on était plus de 60 et on a refusé des personnes. Cette nuit permettait de découvrir leur monde fascinant et d'apprendre que ces petits mammifères sont loin de leur mauvaise réputation. des contes, des mythes et légendes. Donc, du coup, c'était en deux parties. Il y avait d'abord une première partie qui était donc une séance d'information. Donc c'était en plein air, hein, c'était au bord de l'eau, à côté de l'étang de Luisant, à l'étang de Luisant. Donc cette séance d'information, bah, ça permettait de voir un petit peu la diversité des chauves-souris, l'écolocation, la chasse et la capture de proies, leur régime alimentaire, le cycle annuel des chauves-souris, etc. Et puis dans une deuxième partie, eh bien à la tombée de la nuit, c'était une balade nocturne, à peu près une heure et demie, où là, eh bien on va à la découverte des chauves-souris, donc avec une torche, hein, pour s'éclairer, et puis un détecteur d'ultrasons pour déterminer les espèces. Donc là, évidemment, on est dans le moment à la fois festif et instructif, parce que partir en pleine nuit à la recherche des chauves-souris, ça donne quand même un peu la chair de poule, et puis on joue plus ou moins à se faire peur, donc peur du noir, peur des bêtes. Donc c'est un moment à la fois festif, et puis il y avait beaucoup de rire, et puis beaucoup d'attention. Donc c'est vraiment, moi qui croise beaucoup de Luisanté, on m'en parle encore, et même encore là, tout récemment, on m'a dit, mais alors, vous organisez pas la nuit de la chauve-souris, comment ça?
Justement, j'allais vous demander quel retour vous avez eu de la part des personnes présentes.
Alors c'était un très bon retour, et puis ce qui était intéressant aussi, au-delà du fait qu'ils ont apprécié cette nuit, c'est que on vend des nichoirs à chauves-souris que l'on fait fabriquer, et du coup ça a occasionné des ventes, donc les gens sont passés à l'action tout simplement. Puis j'ai eu pas mal de questions après derrière, des petits mails qui demandaient des précisions. Cette nuit, ça a des conséquences très très positives parce que les gens passent à l'action. Et ça, c'est très agréable.
Oui, un sursaut d'engagement.
Oui, tout à fait, oui.
Alors Sylvain, voilà un compte-rendu qui donnera envie à nos auditeurs d'être de la partie pour cette édition 2020 avec le Conservatoire. Quel site allons-nous visiter cette année et pourquoi ?
Alors, cette année, on va proposer une nouvelle fois la découverte des chauves-souris le 29 août à la Tourbière des Fous de Manou. Là encore, parce que c'est un site où, comme je le disais tout à l'heure, il y a eu une étude de l'ONF. Donc, ça permet d'être très pointu sur la présence des espèces qui sont sur la tourbière. C'est aussi un site où l'atmosphère est assez particulière et on peut là aussi proposer une conférence en plein air. Après, il y a certaines personnes qui ont eu justement, on va dire, un avant-goût des nuits internationales à chauves-souris, puisque maintenant l'événement a été rallongé sur tout le mois d'août. Mm-hmm. Donc par exemple, le 1er août dernier, il y a eu une nuit de la chauve-souris autour des ruines du château de la Ferté-Vidame, proposée par le Conservatoire. Et là encore, ça a été un vif succès, puisque évidemment, pas mal de monde viennent avec leurs a priori et repartent finalement conquis par rapport aux chauves-souris. Et surtout, comme le disait David, après les avoir observés en pleine chasse grâce au détecteur d'ultrasons et le fait qu'on les éclairait à la lampe torche.
Alors, il est bien sûr nécessaire de réserver cette année pour la nuit de la chauve-souris ?
Oui, comme tous les événements proposés par le conservatoire, il faut réserver. Donc, ce sera avant le 29 août à midi. Donc, les coordonnées pour s'inscrire, donc ce sera auprès de ma collègue Mélodie, donc au 06 22 81 27 84. Et le nombre de places est limité. Et j'invite fortement les auditeurs à s'inscrire très très vite parce que c'est des animations qui fonctionnent vraiment bien. Et donc, comme le disait David tout à l'heure, les places sont chères.
Et on rappelle bien sûr les quelques consignes sanitaires à respecter pour le bien de tous.
Oui, donc durant l'animation sur le terrain, il faudra avoir son masque contre le coronavirus. En revanche, pour la conférence en plein air, eh bien, on se charge de respecter la distanciation. Donc chaque siège sera espacé de plus d'un mètre pour pouvoir profiter de la petite conférence en plein air sans avoir à porter le masque.
Eh bien Sylvain, un grand merci à vous. Nous vous retrouverons en septembre pour l'intervention du Conservatoire d'espaces naturels. David Lamotte, vous viendrez nous voir en studio, je l'espère, pour nous présenter plus en détail votre association naturelle basée à Luisan. En attendant, comment fait-on pour suivre votre actualité ?
Alors, bah, nous, on a une page Facebook et puis on a un site internet. Donc, on met régulièrement nos actions et puis les prochaines actions de l'association. Voilà, donc on peut suivre l'actualité via Internet, tout simplement.
Et nous mettrons bien sûr tous les liens nécessaires sur le site de Radio Grand-Ciel. Merci à tous les deux.
Merci.
Merci à Sylvain Garbard et à David Lamotte. Je vous rappelle que la Nuit internationale des chauves-souris aura lieu le samedi 29 août à partir de 20h à la Tourbière des Frous à Manou, c'est près de Senonche. Il faut absolument réserver, vous trouverez toutes les infos, tous les liens sur la page de l'émission. Et c'est promis, nous repasserons un petit moment avec David Lamotte et sa belle association naturelle dès que possible. Dans quelques instants, nous retrouverons Sylvain sur le terrain tout à côté de Dreux. Mais pour le moment, une autre pause si vous le voulez bien. Thomas Fersen et son incontournable chauve-souris.
Une chauve-souris aimait un parapluie, un grand parapluie noir découpé dans la nuit, par goût du désespoir, car tout glissait sur lui. Une chauve-souris aimait un parapluie. Elle marchait au radar, le sommeil l'avait fui. Elle voulait se mettre à boire, se jeter au fond d'un puits. Une chauve-souris émet un parapluie, un grand parapluie noir découpé dans la nuit, découpé dans la nuit. Sans jamais s'émouvoir pour cette chauve-souris, le grand parapluie noir sortait de son étui. Il prenait sous son aile soin d'une belle de nuit qui boulevard Saint-Marcel le nourrissait de pluie. Puis le grand accessoire se mit à voyager dans son bel habit noir, son habit noir de jet. Après les palabres pour faire un peu d'osier, un avaleur de sabre le mit dans son gosier, le mit dans son gosier. Un acrobate servit le balancier, un vendeur de cravate le prit comme associé. Puis il se déplia sur une permanente, puis il se déplia car il pleuvait sur Nantes, car il pleuvait sur Nantes. Une chauve-souris, demoiselle de la nuit, une chauve-souris aimait un parapluie. Elle vint chercher l'oubli au fond d'un vieux manoir où elle mourait d'ennui pendant que le parapluie menait au Père Lachaise une vie de bâton de chaise. Un jour de mauvais temps, un jour de mauvais temps, un brusque coup de vent lui mit les pieds devant. On le laissa pour mort dans quelques caniveaux. On le laissa pour mort avec le mec dans l'eau, avec le mec dans l'eau. En voyant son squelette qui faisait sa toilette parmi les détritus et les denrées foutues, c'est la chance qui me sourit, et voilà la chauve-souris. Je le croyais perdu, le manche est revenu, le manche est revenu. Riant comme une baleine, pleurant comme une madeleine, une chauve-souris émet un parapluie. Ils allèrent se dire oui dans le grenier de la mairie. Une chauve-souris émet un parapluie. Une chauve-souris émet un parapluie. Une chauve-souris émet un parapluie.
Une histoire d'amour dont Thomas Fersen a le secret, la chauve-souris. sorti en 1999 déjà. Pour cette dernière ligne droite de Toucher Terre, nous allons battre la campagne. En juin dernier, Sylvain Garbard m'a entraîné sur le site du pont Audé, au nord de Dreux, au bord de l'Avre, pour une transhumance très attendue. Cela faisait en effet des années que Fabienne Romzin, élue de la ville jusqu'aux dernières élections, militait pour un projet simple mais efficace. Assurer la gestion d'une parcelle de pelouse calcicole par un petit groupe de chèvres. Le Conservatoire d'espaces naturels faisait partie de l'aventure, tout comme la Fédération des pêcheurs d'Eure-et-Loir et la Fédération des chasseurs. Chacun a apporté sa pierre à l'édifice aux côtés des dynamiques équipes de la ville de Dreux pour faire de ce projet une réalité. Le jour J, une fois les infrastructures en place, ne restait donc plus qu'à accueillir les chèvres. Il s'agissait en l'occurrence des beautés de la Bouquetière, élevage de chèvres Angora, située à Torcey, au sud de Dreux. Pour que l'événement soit fêté comme il se doit, l'école Paul Bert y a été associée, permettant aux enfants de développer leur rapport à la nature et à sa préservation. Romain Cassaigne, heureux éleveur des chèvres Angora, a donc mené son troupeau depuis l'école du quartier des Bas-Buissons jusqu'au pont Audé à travers champs et bois.
Allez, venez là, Allez, on y va. Allez, viens.
Romain Cassaigne, bonjour.
Bonjour.
Est-ce que vous pourriez, pour commencer, peut-être pour les auditeurs qui ne connaissent pas votre exploitation, nous présenter la Bouquetière?
Alors, c'est une ferme où on élève des chèvres Angora. C'est une race de chèvres qui est élevée uniquement pour leur toison. Qu'on appelle le mohair, et en fait on les tond deux fois par an pour récupérer leur production, voilà, qu'on transforme, et puis ensuite on le vend en vente directe à la ferme, à la boutique, sous forme de produits transformés, prêts à porter, enfin, que ça va de la chaussette au pull, ou sous forme de pelote pour les gens qui veulent tricoter eux-mêmes.
Aujourd'hui on se retrouve pour cette petite transhumance. Est-ce que c'est la première fois que vos chèvres effectuent une transhumance comme ça?
Non, elles sont vraiment habituées, on les déplace, on les change de pâture quasiment toutes les semaines. La ferme est à Torcey, on les emmène de temps en temps à Crécy-Couvet, ce qui fait 15 km aller-retour. Du coup, elles ont l'habitude de marcher avec nous. Ouais.
Aujourd'hui, quel est un petit peu l'enjeu, le site sur lequel on les emmène?
Alors le but, c'est la réouverture d'un milieu, ça veut dire enlever tous les buissons pour qu'ils soient plus à nu. D'une prairie calcicole qui est un milieu écologique assez rare et qui contient de la flore et de la faune spécifique qu'on n'a que sur ce type de milieu, et pour que cette faune et cette flore survivent, il faut que le milieu soit ouvert. Normalement c'était entretenu soit par la faune sauvage, soit par le pâturage à l'époque. Maintenant, vu qu'il n'y a ni l'un ni l'autre, les milieux se sont fermés et du coup ça fait disparaître tout un tas d'espèces, notamment des orchidées qui ne supportent pas les milieux fermés. Donc le but, c'est de mettre des chèvres sur ce milieu très pentu, donc très difficile à débroussailler mécaniquement, pour réouvrir le milieu et favoriser l'assor et l'expansion des quelques orchidées qui restent et quelques insectes qui restent sur les toutes petites parcelles encore ouvertes.
Les chèvres, est-ce qu'on peut en parler un petit peu? Quelles sont les caractéristiques de cette race?
Alors la caractéristique, c'est surtout que c'est très très poilu. Donc ça a une toison bouclée, longue, qui pousse d'un millimètre par jour. Donc avant la tonte, elles ont des mèches de 15 cm. Après, c'est une race calme, relativement rustique, hyper proche de l'homme. Voilà, c'est ses principales caractéristiques. Elles sont toutes blanches, ce qui permet pour la transformation, nous, d'avoir un avantage. C'est qu'on peut teindre de la couleur qu'on veut et mélanger les toisons ensemble. Quoi.
Combien de bêtes avez-vous actuellement?
En ce moment, on est à 45. On tourne entre 40 et 50, normalement, en fonction des naissances et des ventes de reproducteurs. Quoi.
Est-ce que vous pourriez aussi revenir un petit peu, très, très rapidement, sur votre parcours à vous? Qu'est-ce qui vous a poussé à vous lancer dans cette aventure?
Alors, en fait, moi j'ai toujours voulu... du côté de ma mère, c'est Berrichon, donc ça élève beaucoup de chèvres. Donc moi j'ai toujours voulu faire ça. Voilà, c'est quelque chose qui me passionnait. Et puis en fait, avec ma femme, on s'est posé la question de la chèvre laitière qui est contraignante. Et puis bon, il y a déjà pas mal d'élevage. L'intérêt du mohair, c'est que déjà c'est plus original. Et puis en fait, elle aimait aussi le côté création de vêtements, choix des couleurs, des choses comme ça. Voilà, donc en fait c'est un projet commun qui nous convenait à tous les deux, quoi. Moi je suis plutôt du côté élevage et puis elle plutôt du côté boutique création, quoi.
Alors comment est-ce que vous avez réussi à vous implanter dans le Drouet? Est-ce que vous avez trouvé des relais?
Oui, on a été super bien accueillis, surtout dans le village. En fait quand on a acheté la ferme, elle était vraiment en ruine et on a été hyper surpris d'arriver avec un projet un peu original et de se rendre compte que la très très grande majorité des habitants nous suivaient et on a eu vraiment beaucoup d'aide, que ce soit pour la rénovation, pour le bouche à oreille après pour que la vente fonctionne, pour l'aide aux soins, au tri des toisons, vraiment on est très bien entouré en plus.
Merci beaucoup. Quel est l'intérêt aujourd'hui, pédagogiquement parlant, pour votre classe et pour les enfants?
L'intérêt, c'est l'éducation au développement durable. Aujourd'hui, on a travaillé toute l'année, voire même plusieurs années, en fait, sur toutes les questions de la gestion des déchets, de la nature en sciences. Et là, la ville de Dreux, en fait, a proposé un partenariat, en fait, entre la ville, l'école, l'agglomération, le centre des espaces naturels et l'association Territoireum pour mettre en place un système de d'éco-pâturage. Donc les enfants ont pu accueillir les chèvres pendant l'hiver sur le jardin de l'école pour faire connaissance en fait avec ces animaux et prendre conscience que c'était des animaux qui avaient un intérêt écologique parce que là du coup elles vont aller conserver des prairies qui sont protégés à côté de chez eux. Donc il y a un intérêt, effectivement écologique, mais il y a aussi un intérêt pour les enfants patrimonial, en fait, prendre conscience que leur territoire est source de richesse.
Oui, d'autant plus que ce sont des petits citadins.
Tout à fait. Ils ont les yeux tournés vers la ville, sans forcément prendre le temps d'aller respirer un bol d'air pur en forêt ou contempler en fait une belle prairie avec des fleurs, des papillons et plein d'insectes à observer.
Donc pour vous, vous avez vraiment intégré cette composante dans votre pédagogie, dans votre programme
L'éducation au développement durable fait partie des programmes de l'éducation nationale, donc c'est un attendu. Voilà, et donc dans les objectifs fixés par l'ONU, il y a 17 objectifs, et notamment la création de partenariats, de préserver la faune et la flore. Et donc là, du coup, on est dans la préservation de la forêt, la création de partenariats et aussi une éducation de qualité parce que étudier le vivant sur des bêtes telles que des chèvres, c'est quelque chose de différent que de le voir en photo ou en vidéo.
Merci beaucoup.
De rien.
Julie David, donc je suis technicienne à la Fédération des chasseurs d'Eure-et-Loir.
Quelle est exactement votre fonction? Parce que c'est vrai que parfois les fédérations de chasse sont un petit peu mystérieuses pour le public. Alors quelle est votre fonction à vous?
Alors nous, on va être surtout sur toute la gestion et le suivi de la faune. On fait beaucoup de comptages, des suivis de population sur des espèces migratrices. On peut travailler sur des projets, sur des études comme on a fait avec la perdrix grise, en partenariat avec l'OFB maintenant. Et puis on fait tout ce qui est formation pour le permis de chasser, parce que ça reste très sécurisé et une grosse amélioration de ce côté-là. Et à côté aussi, on fait tout ce qui est éducation, de plus en plus tout ce qui est éducation à la nature. Donc ça, c'est moi un petit peu qui suis en charge de ce projet-là, où on intervient dans les écoles pour leur expliquer, leur montrer la faune locale qui les entoure et qu'ils ne connaissent absolument pas.
Alors Julie, j'en profite pour mettre les pieds un peu dans le plat, parce que souvent c'est vrai que on retrouve sur des projets nature des fédérations de chasseurs et ça ne plaît pas toujours ça. Qu'est-ce que vous répondez? Que les chasseurs ont leur place parce qu'eux aussi sont dans la nature?
Oui, bien sûr, on a tout à fait notre place. On a aussi une cohésion à avoir. C'est vrai qu'on a de plus en plus de partenariats, comme avec Eure-et-Loir Nature aussi, des associations comme ça qui sont sur le département. Parce qu'en fait, on est, alors il y a des choses, oui, des sujets où on ne pourra pas être forcément d'accord, mais il y a des sujets sur lesquels on se retrouve et l'union fait la force et du coup, ça permet aussi de monter des super beaux projets.
Merci beaucoup.
Je suis Mathieu Triboulois, vice-président de la PPMA des pêcheurs de Rouet, qui s'occupe en partie de la gestion des rivières, dont la rivière Lavre qui passe sur le secteur du Pont Audet et d'une partie des plans d'eau autour de la ville de Dreux et de la Blesse. Donc on a déjà eu un premier esquisse du projet d'éco-pâturage sur l'été dernier autour du plan d'eau des Châtelets, donc avec le même groupe de chèvres, donc pendant 2 mois et demi sur la partie estivale, pour voir déjà le rendu, le travail effectif de ces petites bêtes. Et là, c'est la finalité du projet et la mise en œuvre au bout de 2 ans et demi de la réalité de leur but et de l'existence, de pouvoir dégager ce terrain afin de pouvoir avoir les fameuses orchidées qui vont pouvoir prospérer. D'ailleurs, on en a juste là sur les parties herbeuses, donc là elles ont à peu près 1 hectare à défricher pour qu'elles puissent se reproduire sur la surface. Voilà.
Et quel est l'intérêt donc pour les pêcheurs, pour la fédération d'accompagner ce genre de projet ?
On accompagne la fédération en soi, on s'occupe plus même de projets environnementaux et de continuité écologique que de pêche en soi. C'est fédération de protection du milieu aquatique. Donc, étant propriétaire en plus de la partie de la barrière jusqu'au bout du parcours, ça nous appartient. Cette partie-là des berges est en location. Donc c'était logique que Nathalie nous appelle pour pouvoir participer au projet, ainsi que la fédération de chasse, qui sommes quand même les personnes qui sont là quasiment au quotidien. La fameuse présence qui va pouvoir un petit peu surveiller et voir s'il se passe des choses, c'est quand même principalement nous. Voilà.
Alors, Sylvain, nous voici au Pont Audet. Qu'est-ce qu'on fait ici aujourd'hui ?
Eh bien, on est en train de tout préparer pour l'arrivée des chèvres. Les chèvres de Romain Cassin, du coup, donc des chèvres en Angora qui sont là pour restaurer le site du Pont Audet.
Alors, quelles sont les caractéristiques de ce site ?
Alors, c'est ce qu'on appelle une pelouse sèche calcicole. Donc, c'est un habitat naturel qui est protégé au niveau européen. Et c'est des milieux qui sont essentiellement liés à l'activité humaine, donc historiquement le pâturage. On sait qu'au Pont Audet, ça fait un petit temps qu'il n'y en a pas eu. Donc petit à petit, cette pelouse s'est dégradée. On va retrouver notamment des espèces qui aiment beaucoup le soleil. Et si on laisse le site se dégrader, les arbres petit à petit vont se développer et ces espèces disparaître, qui sont souvent des espèces rares ou protégées. Donc là, le fait de remettre des chèvres sur le site avant de pouvoir restaurer et qu'on retrouve une jolie pelouse avec une belle biodiversité.
Alors justement, là pour le public, là on est sur le site, c'est vrai que c'est pas évident de savoir que c'est une pelouse calcicole, même si on aperçoit quelques petites orchidées.
Alors voilà, au niveau des caractéristiques d'une pelouse sèche calcicole, donc calcicole se veut dire calcaire, donc là on est sur du sol où il y a de la craie, et la végétation elle est relativement rase. Si vous venez en plein mois d'août, l'herbe elle va être toute grillée, comme le sol est drainant. Et on a des petits buissons caractéristiques de ce milieu-là, c'est ce qu'on appelle les genévriers, qui font les baies de genièvre, qu'on peut retrouver entre autres dans la choucroute par exemple. Ça vient de cet arbuste-là, qui est complètement lié aux pelouses sèches. Donc c'est une espèce méridionale.
Donc qu'est-ce qu'on va chercher à éliminer sur ce site-là on
va... Ça va être surtout tout ce qui est arbres et arbustes, puisque l'idéal, ce serait qu'on retrouve ce qu'on appelle une lande à genévriers. Donc au final, c'est que de la pelouse sèche avec des genévriers dedans. Donc toutes les autres espèces ligneuses, il faut en conserver quelques-unes quand même pour la nidification des oiseaux. Néanmoins, ce qu'on préfère, c'est qu'il y ait des endroits bien ouverts, c'est-à-dire avec très peu de boisement.
Alors là, les chèvres, elles vont rester combien de temps sur le site ?
Alors je pense au moins jusqu'à la fin de l'année, parce qu'on est sur à peu près 3 hectares au niveau du site. Là, il y a une douzaine de chèvres. Donc on va portionner le site avec des filets mobiles, parce que si on laisse 12 chèvres sur 12 hectares, en fait, elles vont choisir ce qu'elles vont manger. Et au niveau de la végétation, elles ne vont pas forcément consommer ce que nous, on souhaite éliminer. Donc on réduit l'espace pour augmenter la concurrence entre les animaux. Et du coup, ils vont se mettre à tout grignoter. Donc là, je pense qu'on va avoir les chèvres sur ce petit espace-là pendant à peu près 15 jours, 3 semaines. Et petit à petit, on va le déplacer Donc la restauration complète, ça va être un travail sur plusieurs années. Néanmoins, dès la première année, on pourra voir que au niveau des arbustes, que les chèvres vont avoir mangé tout en dessous et on arrivera à voir le pied des arbres, ce qui n'est pas le cas là aujourd'hui. Donc là, ça fera vraiment comme un plateau et on verra tout en dessous avec peut-être des orchidées qui vont se remettre à pousser.
D'accord, donc le premier bilan vraiment peut-être au printemps prochain ?
Voilà, ou même dès l'automne, je pense, on pourra déjà voir les résultats parce que les chèvres travaillent vraiment très très vite par rapport à des moutons. Parce qu'on gère un site où on restaure avec des moutons et il a fallu un an pour voir les résultats, même un petit peu moins. Donc là, avec les chèvres, je pense que comme l'espace est restreint, quand elles vont quitter l'enclos, on verra très nettement là où elles étaient et là où elles n'étaient pas en l'espace d'un mois, je pense.
Très bien, merci beaucoup Sylvain.
Merci.
Merci à tous les intervenants de ce petit reportage, Sylvain Garbard bien sûr, mais aussi Romain Cassaigne de la ferme de la Bouquetière, Adrien Soisson, directeur de l'école Paul Bert à Dreux, Julie David de la Fédération de chasse d'Eure-et-Loire et Mathieu Tribouille, vice-président des pêcheurs droués qui dépendent bien sûr de la Fédération de pêche d'Eure-et-Loire. Nous prendrons, il va sans dire, des nouvelles des chèvres Angora de la Bouquetière dans quelques mois. En attendant, n'hésitez pas à découvrir le site du pont Audet, point de départ d'un joli petit chemin au bord de l'Avre et lieu de souvenir pour bon nombre de droués du Nord qui, comme mon père et ses parents avant lui, lavaient leur linge près du pont Audet, comme ils l'appelaient. Vous trouverez sur la page de l'émission un petit film tourné ce jour-là depuis les airs par un drone pour joindre l'image au son. Et surtout, vous trouverez tous les liens utiles, notamment vers le site de la Bouquetière que vous pouvez soutenir en achetant des textiles ou des pelotes de laine mohair. Avant de nous quitter, un petit point sur les sorties nature qui vous attendent dans les semaines à venir. Outre la nuit de la chauve-souris le 29 août, notez bien dans vos agendas. Le mercredi 12 août de 14h30 à 16h30, sur les terres de l'association naturelle à Luisan, une découverte des étangs de Luisan et de Barjouville, deux espaces naturels sensibles. Le mercredi 19 août, rendez-vous cette fois au parc du château de la Ferté-Vidame pour découvrir ces quatre ailes. Il s'agit bien sûr des insectes auxquels un sentier est tout spécialement consacré au parc. Insectes toujours, cette fois dans la magnifique réserve régionale de la Vallée des Cailles à Boncourt, le samedi 22 août de 14h30 à 16h30. Grâce au conservatoire et à l'association Bonheur de Vivre, les orthoptères, les grillons, les sauterelles et les criquets n'auront plus de secret pour vous. Et puis ce sera déjà la rentrée de septembre, rendez-vous le dimanche 13 septembre à partir de 14h30 à l'étang de la Benette à Senonches pour découvrir la flore de cet étang âgé de 500 ans grâce au conservatoire et à l'association Eure-et-Loire Nature. Toutes ces sorties sont gratuites, renseignements et inscriptions obligatoires au 02 37 28 90 91. Attention, le nombre de places est limité et il faudra bien sûr respecter le port du masque compte tenu de la situation sanitaire. Je vous souhaite de belles découvertes estivales avec nos deux partenaires et toutes les associations qui œuvrent à la préservation de notre nature eurélienne. Nous nous retrouvons dans quelques semaines pour une nouvelle saison de Touche et Terre. Vous pourrez notamment entendre, grâce à Simon, une interview exclusive du bioacousticien Fernand de Roussen, véritable référence dans ce domaine fascinant et, il faut bien le dire, un peu étrange. Pour une fois, au lieu de toucher terre, nous l'écouterons. Merci pour votre fidélité. Vous pouvez réécouter cette émission et les précédentes sur notre site internet radiograndciel.fr. Thank you.